La sécurité du Pakistan équivaut à celle de l'Iran, a indiqué le commandant en chef du corps des gardiens de la révolution islamique lors d'une rencontre avec le chef d'état-major des forces armées pakistanaises. Un soldat israélien a été poignardé dans la vieille ville de Rots. L'auteur de l'attaque a réussi à s'échapper. Et l'ONU appelle le Soudan et l'Éthiopie à faire preuve de retenue et à prendre des mesures concrètes pour réduire les tensions. C'était les principaux titres. En voici le journal. Le chef d'état-major des forces armées pakistanaises, le général Nadim Reza, et la délégation militaire et l'accompagnant se sont entretenus ce mardi 28 juin à Téhéran avec le commandant-chef du corps des gardiens de la révolution islamique, le CGRI, le général de division Hossein Salami. Souhaitant la bienvenue à la délégation pakistanaise, le général de division Salami a tenu à faire allusion aux relations religieuses, culturelles, historiques, étroites et profondément enracinées entre les deux pays et nations avant d'ajouter. Dans l'histoire profonde des deux nations, il n'y a d'autre signe que l'amitié et la fraternité. En plus de ces points communs forts et profondément enracinés, en tant que pays membre du monde musulman, nous avons des ennemis communs. Qualifiant le régime sioniste d'ennemi du monde islamique et de l'humanité, le général Salami a souligné que les Américains, qui sont l'appui des sionistes, sont fondamentalement des ennemis de l'Oumma islamique. Le commandant en chef du CGRI a déclaré que la présence des Américains dans le monde de l'islam a eu pour résultat de grandes divisions, des guerres internes prolongées, la destruction des maisons, le déplacement des citoyens et le pillage des ressources nationales des peuples musulmans. Quand on regarde l'Afghanistan, on voit les effets néfastes et irréparables de l'intervention américaine. Grâce à Dieu, nos ennemis battent en retraite et nous espérons que les pays de la région retrouveront leur indépendance avec confiance et solidarité, a-t-il souhaité. La sécurité du Pakistan équivaut à celle de l'Iran et nous insistons sur le développement et la consolidation des relations et coopération bilatérales dans divers domaines, notamment l'amélioration du niveau de sécurité aux frontières communes et la lutte contre le terrorisme, a rappelé le général de division Hossein Salami. De son côté, le chef d'état-major de l'armée pakistanaise, le général Nadim Reza, a évoqué de nombreuses affinités irano-pakistanaises, disant que la division et la discorde au sein du monde de l'islam sont planifiées par les États-Unis et l'Occident. Les Américains, a-t-il ajouté, ont quitté l'Afghanistan après 20 ans sans y établir la sécurité et leur présence n'a eu aucun acquis positif. Il a également souhaité l'essor des coopérations avec l'Iran en matière de renseignement et d'opérations afin d'assurer la sécurité des frontières irano-pakistanaises. Le mardi 28 juin, l'agence de presse palestinienne MAN a rapporté qu'un soldat israélien avait été poignardé dans la vieille ville de Qods. Citant des témoins oculaires, MAN a rapporté que l'auteur de l'attaque avait réussi à s'échapper après avoir poignardé un militaire israélien près de l'une des portes de la mosquée Al-Aqsa. La chaîne 13 de la télévision israélienne a rapporté que le jeune homme s'était enfui vers la mosquée Al-Aqsa, suite à quoi les forces d'occupation ont fermé toutes les entrées du lieu. Des coups de feu ont été entendus près de la porte du conseil, Bab al-Majlis en arabe. Les forces d'occupation israéliennes ont donc décidé de fermer le quartier de Bab al-Amoud à Rots et de la mosquée Al-Aqsa. Plusieurs jeunes Palestiniens ont été interpellés. Les médias israéliens ont confirmé qu'un Palestinien avait tenté de commettre une attaque à l'arme blanche et avait réussi à s'échapper. Des sources locales ont indiqué qu'il y avait eu un déploiement massif des forces d'occupation dans la vieille ville, au cours duquel elles ont fermé les portes de Hatta et du Conseil et pris d'assaut les environs de la mosquée du Dôme du Rocher. Israël fait face à une vague d'attaques des Palestiniens qualifiée de sans précédent. Quelques milliers de militaires yéménites ont reçu ce lundi 27 juin leur diplôme à l'issue d'un défilé militaire dans la zone militaire centrale. La cérémonie de remise des diplômes de 3000 militaires yéménites a eu lieu ce lundi 27 juin lors d'un défilé en présence du commandant de la zone militaire centrale, le général de division Abdel Khalira Badreddine Al-Houssi. Les militaires ont déclaré leur pleine disponibilité à soutenir la foi et la patrie devant les agresseurs et les occupants. Lors de la cérémonie, le ministre de l'Information, Zaïf Allah Al-Shami, a salué les nouveaux diplômés pour leur niveau de préparation et leur volonté de défendre la patrie, sa sécurité, sa stabilité, sa souveraineté et son indépendance. Les forces d'agression, bien qu'elles soient dans une trêve, elles utilisent cette trêve pour arranger leur situation. Mais nous sommes plus forts et mieux préparés qu'eux. Nous sommes plus forts parce que nous sommes liés à Dieu et nous tirons notre force de lui. Le ministre Alchemi a ajouté que l'ennemi n'a pas bien fait ses calculs. L'armée et les comités populaires ont prouvé qu'ils étaient au courant des complots des pays d'agression et de leurs Russes. Les développements montrent que les forces yéménites sont pleinement préparées pour passer à l'étape post-trêve, alors que la trêve a été violée à maintes reprises par la coalition d'agression saoudienne et dont la prolongation a été jugée improbable par le vice-ministre yéménite des Affaires étrangères, Hossein Al-Ezzi. Le président du Comité suprême de la révolution yéménite, Mohamed Ali Al-Houssi, est tout à fait clair et sérieux pour rappeler. La poursuite du blocus et le refus de l'application des contenus du cessez-le-feu, qui est un document officiel conclu sous les auspices de l'ONU et du Conseil de sécurité, souligne le crime intentionnel de l'Arabie saoudite d'utiliser la faim comme une arme contre le peuple yéménite. La hausse des prix du pétrole, qui devrait atteindre les 30%, pourrait faire baisser le produit intérieur brut PIB de la zone euro de 1,5% selon une nouvelle étude. Présentée mardi 28 juin lors du forum annuel de la Banque Centrale Européenne, BCE, qui se tient à Sintra, au Portugal, l'étude a montré que les pays européens étaient parmi les plus touchés par la flambée des prix du pétrole et du gaz, notamment en raison de leur dépendance à ces carburants, aussi bien pour leur production que pour leur consommation. Selon cette étude, l'augmentation des prix de l'énergie est directement liée aux tensions géopolitiques et aux perturbations des chaînes d'approvisionnement causées par le conflit en Ukraine. En moyenne, chaque augmentation de 10% des prix du pétrole risque de réduire le PIB de la zone euro de 0,5% dans un délai de 2 ans, ce qui signifie qu'une inflation pétrolière de 30% pourrait à terme réduire le PIB de la zone euro d'1,5%. La hausse des prix des autres marchandises, notamment des denrées alimentaires, a déjà fait monter les perspectives d'inflation et est susceptible d'avoir des effets durables sur les prix, selon la même étude. Le président russe Vladimir Poutine a signé mardi 28 juin un projet de loi légalisant les importations parallèles dans le pays en vue de stabiliser les prix dans le contexte des sanctions économiques de l'Occident. Cette loi protège les entreprises russes qui importent certaines catégories de marchandises sans l'autorisation du détenteur de la propriété intellectuelle, les soi-disant importations parallèles, contre toute responsabilité civile, administrative et pénale. Cette loi autorise le gouvernement russe à déterminer la liste des marchandises soumises à la nouvelle législation. Cette légalisation des importations parallèles vise à protéger l'économie et les citoyens de Russie face aux sanctions économiques, à simplifier le commerce des marchandises éligibles et à stabiliser leurs prix, a déclaré Vyacheslav Volodin, président de la Douma d'État, chambre basse du Parlement russe. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a exprimé mardi 28 juin sa profonde inquiétude après la mort de vie soudanais en Éthiopie, appelant les deux pays à faire preuve de retenue et à prendre des mesures concrètes pour réduire les tensions. C'est ce qui ressort d'une conférence de presse tenue par le porte-parole du secrétaire général des Nations Unies, Stéphane Dujarric, au siège permanent des Nations Unies à New York. Dimanche 26 juin, l'armée soudanaise a annoncé que l'Éthiopie a exécuté 7 soldats soudanais et un citoyen, assurant qu'elle prendra des mesures de représailles contre cette trahison. L'armée éthiopienne a annoncé plus tôt mardi être prête à collaborer avec son homologue soudanaise dans ses enquêtes, exprimant l'espoir que le gouvernement soudanais éviterait toute escalade. La frontière entre les deux pays est le théâtre de tensions, alors que Khartoum a annoncé le 31 décembre 2020 que l'armée avait pris le contrôle de tout le territoire soudanais dans la zone frontalière d'Al-Fashaga avec l'Éthiopie. De son côté, Addis Abeba accuse le Soudan d'avoir pris le contrôle des terres éthiopiennes, ce que Khartoum dément. La zone d'Al-Fashaga comprend les terres agricoles les plus fertiles dans l'État soudanais de Gedaref et est divisée en 3 régions, à savoir le Grand Al-Fashaga, le Petit Al-Fashaga et la région du Sud. Au moins 22 terroristes ont été neutralisés dans une opération menée lundi 27 juin par les forces de défense et de sécurité burkinabé dans le sud-ouest du pays, a annoncé le lendemain, mardi, l'armée burkinabé dans un communiqué. Suite à des renseignements consolidés, une action offensive a été conduite par des unités du groupe d'action rapide de surveillance et de l'intervention de la province de la Bogoriba, région du sud-ouest, et des unités du groupement départemental de Gaoua le 27 juin pour interpeller des individus qui transportaient des explosifs, selon le communiqué. À l'issue de l'opération, les unités ont effectué un ratissage au cours duquel les trois bases des terroristes ont été découvertes, précise le communiqué, ajoutant que les unités ont à chaque fois engagé le compas, neutralisant au moins 22 terroristes. Une importante quantité de matériel, dont de l'armement, des munitions, de la drogue et des produits pharmaceutiques, ont également été récupérés ou détruits, selon la même source. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. La stratégie sioniste de la tête de la pieuvre a bel et bien échoué. Le nouveau plan des sionistes, consistant à porter atteinte à l'Iran à la place des groupes de résistance, a capoté très rapidement, selon le journal Rayel Yom. Le premier ministre sortant du régime sioniste, Naftali Bennett, a prétendu début juin que ce régime mettait en œuvre la doctrine israélienne dite de la pieuvre contre la République islamique d'Iran. Cela signifie que, selon les allégations de Bennett, nous ne jouons plus avec les tentacules, avec les mandataires de l'Iran, nous avons créé une nouvelle équation en visant la tête. En introduisant la nouvelle stratégie dite de la tête de la pieuvre, le régime sioniste avait l'intention de concentrer ses attaques sur l'Iran et d'entrer en guerre avec l'Iran, aussi bien depuis l'intérieur que l'extérieur, et pas seulement avec des groupes de résistance tels que le Hezbollah, le Hamas, le djihad islamique, les Hashd al-Shaabi ou Ansarallah, a écrit Rayel Yom. Les récents développements militaires et du renseignement ont montré que l'utilisation de termes par les sionistes est une chose et que ce qui se passe réellement sur le terrain en est une autre. Par conséquent, le régime sioniste n'a pas encore réussi à cibler l'Iran ni à porter atteinte aux groupes de résistance, indique le journal. Selon ce rapport, au cours de la dernière décennie, l'Iran est devenu militairement, politiquement et économiquement plus fort qu'avant et les forces de la résistance ont fait de grands progrès en termes de puissance et d'armement et sont devenues plus puissantes que de nombreuses armées parce qu'elles disposent à la fois des missiles de haute précision et des drones modernes et avancés. Bien sûr, il faut y ajouter une force de combat dotée de capacités militaires élevées. Le régime sioniste n'a gagné aucune guerre depuis 1967 et n'a pu occuper aucun des pays arabes depuis 40 ans. Tout au contraire, il n'a fait que payer des coûts matériels et humains de son comportement et a fini par accepter de battre en retraite, précise le journal Rayel Yom. Le régime sioniste a échoué dans la guerre des navires et des pétroliers contre l'Iran. Actuellement, il fait face à une panique à la suite de laquelle il appelle tous ses touristes et citoyens à quitter la Turquie. Dans le cadre de ses actions désespérées contre Téhéran, le ministre des Affaires étrangères du régime sioniste, Yair Lapid, s'est rendu en Turquie et a rencontré son homologue turc. Avant cette visite, les sionistes ont prétendu que la vie de leurs touristes en Turquie était en danger et qu'ils seraient ciblés par l'Iran. Ces allégations interviennent alors que les experts soulignent que l'entité sioniste tente de semer la zizanie entre Téhéran et Ankara pour ainsi faire associer la Turquie à ses coalitions vicieuses dans la région. Dans ce droit fil, le porte-parole de la diplomatie iranienne a fermement démenti les déclarations des responsables israéliens ces dernières semaines, selon lesquelles l'Iran ciblerait les touristes israéliens en Turquie, les qualifiant d'allégations montées de toutes pièces.